lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
Cette émission va être en deux temps. Je vais d'abord vous parler d'un livre et je vous réserve ensuite une petite surprise, une sorte de gâterie. Le livre. François Nourricier prend soin de nommer roman son dernier livre paru « Eau de feu » chez Gallimard. Mais cela ne trompe guère les fidèles lecteurs d'un auteur qui est toujours en quelque sorte le sujet de ses livres. Il s'agit là du récit d'un drame intime vécu par lui, un vrai cauchemar. Dans le livre, il se donne le nom de Burgonde qui était le sien dans son roman « L'Empire des nuages » et son épouse, Cécile Némulstein, prend le nom de Reine. Reine Cécile, on peut le dire maintenant, a sombré dans l'alcoolisme vers le milieu des années 90. Elle est morte l'année dernière. Le livre que voici a été écrit en un an, au tournant du siècle. À la dernière page, il est daté de la 5e année, 11e mois de l'épreuve. Reine devait vivre encore plus de 7 ans. Dans l'intervalle, le manuscrit était dans un coffre chez Gallimard, car il était évidemment hors de question de le publier du vivant de cette malheureuse. Il aurait pu, et peut-être dû, ne pas l'être du tout, tant il est cru et cruel. N'en attendez aucun bonheur de lecture, sauf au deuxième, au troisième, au huitième degré, par la magie du style. La critique a décrété que ce livre était le dernier de François Nourricier, dernier au sens d'ultime. Qu'en savent-ils ? Même si François Nourricier l'a éventuellement affirmé à l'un d'eux, il ne faut jurer de rien. Tant qu'il vivra, cet écrivain de race n'aura pas dit son dernier mot. C'est un livre déchirant et qui serait désespéré et désespérant s'il n'était avant tout et jusqu'à la dernière ligne un hymne douloureux à l'amour. Nourricier l'a écrit à la dérobée, en cachette même. Il est discontinu, fait de scènes courtes pour la plupart, des flashs sur la détresse, des confidences à mi-voix entre deux portes closes, des rappels hallucinés de scènes violentes, des retours en arrière mélancoliques sur les bonheurs d'avant. Nourricier n'accuse pas, il ne se ménage pas lui-même, s'attribuant une large part de la déchéance de Cécile. Il décrit son déclin, sa lente accoutumance, ses ruses, ses dissimulations, ses manies, l'alcool bu au goulot à la régalade, les bouteilles cachées derrière les piles de linge, les délires avec leurs éclats de lucidité. On n'a peut-être jamais écrit sur cette addiction avec une telle précision clinique, étonnamment mêlée à de la tendresse. Nourricier ne s'épargne pas, s'accusant d'avoir plus ou moins donné à sa femme le goût de l'alcool « dur », comme il dit. On parle peu de vin dans ses pages, et plus rarement encore des grands crus, de leurs arômes, de leurs bouquets, de leur nez, de toute cette littérature autour des grands vins que l'on connaît. Non, ici, ce qui compte, ce n'est pas la volupté d'un palais flatté par des sortilèges subtils, mais le coup de massue de l'alcool fort, brut, et des mélanges improbables allant jusqu'à l'eau de Cologne et au Saint-Ol. La langue de Nourricier n'a jamais été plus somptueuse, incandescente, tendue jusqu'à l'extrême. riche d'inventions, de fantaisies même, allant des formules les plus denses aux phrases haletantes, du classicisme le plus pur à la gouaille et aux formules familières, voire relâchées. Comme il l'a dit dans une interview récente à l'Express, je cite, « J'ai vraiment l'impression que je peux faire ce que je veux avec mon écriture. » On a envie de dire de cette écriture qu'elle est ici surécrite, comme on dit d'un acteur de théâtre que son rôle est surjoué. Il en va de ce style comme de l'alcool. Il tourne la tête, il brûle, il saoule, il laisse sans voix. Sacré nourricier. Et maintenant, pour nous changer d'atmosphère, je vais vous lire un texte que j'ai infligé à beaucoup de mes amis, qui est peut-être, à mes yeux en tout cas, le plus joli texte qu'on ait écrit sur Mozart. C'est une préface que Jean Giraudoux a écrite pour un livre d'une romancière allemande ou autrichienne, Annette Kolb, publié en français par une traduction de Denise Van Moppes chez Albin Michel en 1938. Voilà ce texte. Si nous n'avions l'intime pensée que l'incompréhension du monde est finalement plus chère au génie que son applaudissement, la vie de Mozart serait un des plus grands remords que nous aient légué nos grands-pères et un péché originel qui me serait autrement plus lourd que l'autre à porter. Sans avoir eu le malheur de descendre du comte Arco qui le mit à la porte d'un coup de pied, ou de la duchesse de Chabot qui ne lui accorda pas un jour glacial de se chauffer les doigts avant de jouer, je ne suis pas issu non plus, ni aucun de vous, de celui qui le soutint quand il trouva dans sa chambre de Paris sa mère morte, puisqu'il était seul, ni de ceux qui accompagnèrent son corps au cimetière Saint-Marc, puisque dans l'ouragan, personne n'eut le courage d'aller jusqu'au bout. Ce privilège inouï, cette noblesse héréditaire qu'aurait conféré le simple fait de fermer les yeux de Madame Léopold Mozart, de prêter son plus bel habit à Mozart, de ferrer gratis les chevaux de la voiture de Mozart, d'aborder Mozart dans la rue en lui disant qu'il serait ce que le monde a de plus cher, et quand il vous aurait tourné le dos, poli et flatté, de courir après lui, de lui dire que ce qu'on venait d'avouer n'était rien à côté de la vérité, et quand il vous aurait à nouveau remercié en vous donnant un de ces surnoms gazouillants dont il appelait ses amis et par lesquels les oiseaux ont essayé de se rattacher à Mozart, de le suivre la bouche fermée comme devenu muet, comme si l'on ne devait plus rien de sa vie. Nous les avons refusés dans la personne de nos arrière-grands-parents et de notre avant-dernier siècle. Tant pis, le mal n'est grand que pour nous. L'essentiel, c'est que Mozart ait été celui qui a goûté le plus Mozart. Jamais poète, jamais musicien n'a écrit une œuvre qui fût autant faite pour lui-même. Dans tout poème, dans toute symphonie, il y a un large pourcentage accordé par l'auteur, non pas à ceux qui ne sont pas lui, mais à ceux qui n'est pas lui. Ou encore, il est des parties de lui-même qui ne participent pas au miracle. Prenez Goethe. Tout est Goethe dans son œuvre, et cependant je ne suis pas sûr que tout soit absolument Goethe dans son être. Je connais tout ce qui, dans Goethe, n'est pas pour Goethe et est pour nous, les passages de Goethe dont Goethe n'avait pas la complète jouissance, par indifférence humaine quelquefois, ou au contraire, par trop de grandeur humaine. Dans Mozart, tout est pour Mozart. Goethe aurait été heureux, noble, satisfait, considéré, aimé, si un poète nommé Goethe n'avait pas existé en même temps que lui. Quel magnifique chambellan, quel doyen parfait, quel étonnant amoureux, que Goethe sans Goethe. Mais je ne peux me représenter son cauchemar, le passage sur cette terre de Mozart, son dénuement, son supplice. Quel loque, quel oiseau aveugle eût été Mozart si Mozart n'avait pas existé. Cela aurait pu être, Ils sont infiniment plus rares que l'on ne croit, les hommes qui apportent ici-bas leur propre aliment et chez lesquels l'exigence du cœur et de l'inspiration égale juste le génie. Je ne pense donc pas qu'il ait éprouvé de vraies souffrances devant la cécité et la surdité de Salzbourg et de Vienne, puisqu'il n'a jamais connu le doute. On sent très bien que ses impatiences lui viennent plutôt de sa sympathie pour l'humanité, du désir d'avoir à la bien juger, de trouver des frères dans ses confrères les hommes. Des femmes, on ne peut trop rien dire. Si elles ne comprennent pas le génie, elles l'escortent. Elles comprennent ses attributs mineurs, la gloire, le jeu de mots, la gaieté, les unes la richesse, les autres l'infortune. Joyeuses à tort, vexées à tort, avides de se sacrifier à tort et à raison, elles peuplent du moins d'une façon inégalable les temps non pas médiocres mais modérés de la création et de l'inspiration, les promenades à âne et le déchiffrement à quatre mains. Mais c'est quand même assez désolant, et très désolant, quand on se sent mourir, d'avoir à confier une dot comme la musique de Mozart à une humanité dont on n'est pas plus sûr. Une colère de l'archevêque, un feu dans la cheminée archiépiscopale, un dépit de Constance, et sans effet, plus jamais de flûte enchantée, plus jamais de requiem. On se rappelle comment Mozart, à son agonie, cachait justement à sa femme ce requiem, le déménageant de placard en placard. À défaut de l'humanité, il eût été satisfait d'un simple coffre-fort. Tout menaçait ce requiem dans la race humaine, l'acheteur inconnu, l'épouse, la mort aussi. Et pourtant, à quelle autre race le confier ?